Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ainsi, la Vierge Marie et Saint Joseph étaient étonnés de ce qu'on disait de l'enfant, c'est-à-dire étonnés, ils le furent à la fois, je me suis trompé, mais je recommence dans l'ordre, cette première phrase de l'Évangile que vous avez entendue tout comme moi, on peut la traduire de deux façons, soit comme je viens de la lire, traduite du grec, ils étaient étonnés, soit traduite du latin, ils étaient émerveillés. Ça vous semblera peut-être anodin, il semble une sorte de discussion d'exégète que pour un dimanche matin vous trouverez un peu rude à avaler. En réalité, les deux sens sont tout à fait pertinents, et cette hésitation entre les deux traductions, Joseph et Marie étaient émerveillés ou ils étaient étonnés, à l'égard du discours que leur tient le vieillard Siméon, est tout à fait révélateur du double sentiment qui est en eux, ou de la double disposition qui est la leur, parce que je ne pense pas que Saint Joseph et la Vierge Marie soient vraiment des sentimentaux. Voyez, il y a dans la prophétie de Siméon comme une confirmation de toutes les prophéties de l'Ancienne Alliance au sujet du Messie. Il y a en même temps une confirmation de ces deux annonces personnelles qui ont été adressées par l'ange Gabriel à la Vierge Marie et à Saint Joseph dans cette prophétie de Siméon, ou plutôt dans son Nunc Dimittis, c'est-à-dire cet hymne que l'Église chante a accompli chaque soir, peut-être le savez-vous, et dans laquelle Siméon nous dit « Mes yeux ont vu votre salut que vous avez préparé à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, votre peuple. » Vous voyez que ça fleure bon la prophétie de l'Ancienne Alliance, ça récapitule les prophéties de l'Ancienne Alliance en les appliquant à ce petit bouchou qui est entre les bras de sa mère, et en même temps, ça nous rappelle étrangement les termes mêmes des deux annonces adressées par Saint Gabriel à la Vierge Marie et à son époux. En effet, Dieu sauve, Jésus, c'est le nom que Gabriel demande à la Vierge Marie et à Saint Joseph de donner à l'enfant. Et Siméon nous dit « Mes yeux ont vu votre salut ». Voilà Dieu sauve qui est devant moi entre les mains de sa mère. Voici donc ce qui produit d'abord l'émerveillement de Saint Joseph et de sa sainte épouse. Évidemment, ils sont émerveillés parce que ce Siméon ne connaissait ni l'un ni l'autre, parce qu'il n'avait pas eu accès évidemment à ces annonces particulières de l'ange Gabriel, et qu'il dit dans les mêmes termes quasiment ce qui a été dit par l'ange en privé à la Vierge Marie et à Saint Joseph. C'est donc bien le même esprit qui souffle, et Saint Joseph et la Vierge Marie, qui sont très, très sensibles à ce souffle du Saint-Esprit, se disent que c'est sûr qu'ils n'ont pas rêvé, et que ce petit enfant, il est effectivement ce que Gabriel leur en avait dit, il n'y a pas de doute. Voilà Siméon qui scelle de son autorité de prophète, si l'on veut, ce que leur a dit l'ange Gabriel. Ils n'ont pas rêvé. Quand on a une annonce angélique, il y a toujours un peu ce risque, un peu plus tard, qu'on se dise qu'on a rêvé, que c'était un fait de notre imaginaire. Et avec ce vieillard et ces paroles qui sont les mêmes que celles de l'ange, il n'y a pas de doute possible, ils sont dans la vérité. Et ce petit enfant est bien le sauveur. Ce qui produit l'émerveillement de la Vierge Marie, c'est également, plus largement que cette prophétie de Siméon, tout ce qui est dit de l'enfant depuis qu'il est né. Effectivement, souvenez-vous de cette nuit de Noël que nous avons fêtée il y a quelques jours à peine, des bergers, des anges et bientôt des mages viendront se prosterner devant l'enfant et procurer la plus grande joie qui puisse être dans le cœur de la Vierge Marie et de Saint Joseph, parce qu'ils voient sous les traits de ce petit enfant qui est le leur, naturel pour l'une, putatif pour l'autre, mais qui est le leur, eh bien un sauveur. Et en même temps que l'émerveillement, c'est dans le cœur de Marie et dans le cœur de Saint Joseph un questionnement, un étonnement. Je ne sais pas si ça vous heurte, mais pour ma part, ça me heurte. C'est un peu étonnant que la Vierge Marie et Saint Joseph puissent être étonnés de cet enfant Jésus, étonnés de ce qu'on dit de lui. Ils ont été nourris, si j'ose dire, à cet excellent grain de l'Ancien Testament. La Vierge Marie, la tradition nous dit qu'elle a été éduquée à l'ombre du Temple. Saint Joseph est le juste, et le juste, j'en ai déjà parlé ici, le juste, c'est celui qui est à l'écoute de la parole de Dieu. Ils connaissent donc parfaitement les annonces messianiques. Ils ont reçu des annonces particulières de l'ange Gabriel, j'y faisais allusion il y a un instant. Comment se fait-il qu'ils puissent être étonnés ? ils sont quand même les mieux informés, ils sont les enfants de prédilection du Père, qui leur dit moult choses, autrement qu'à nous, et les voilà étonnés. Ça peut sembler étrange. Et pourtant, c'est vrai, ils ont été étonnés. Vous savez que Saint Luc, à qui l'on doit l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc a recueilli, soit directement, soit par médiation interposée, celle de Saint Jean, le témoignage de la Vierge Marie. Ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, à propos notamment de l'enfance de l'enfant Jésus, et donc le récit d'aujourd'hui, il est dû à Marie, au témoignage de la Vierge. Si donc il écrit que Marie et Joseph étaient étonnés, c'est que la Vierge Marie l'a avoué. Elle a avoué qu'ils avaient été étonnés au moment de rencontrer Siméon, et même plus largement, pendant toute la durée de l'enfance de Jésus et au-delà. Ils sont étonnés. Qu'est-ce qui les étonne, à vrai dire ? Je crois que ce qui les étonne, c'est le versant douloureux de la prophétie de Siméon. Parce que Siméon n'annonce pas seulement qu'il est bien le Sauveur, qu'il sera le roi glorieux, que... pas seulement. La prophétie de Siméon a quelque chose de profondément douloureux, nous le savons. Il annonce que cet enfant sera en butte à la contradiction. Il annonce que la Vierge Marie aura enduré comme un coup de glaive dans l'âme. Perspective peu réjouissante. Or cela, rien n'y disposait, ni Saint Joseph, ni la Vierge Marie. Rien. Ils attendaient un sauveur, on leur avait promis l'Emmanuel. On leur a dit qu'il était Jésus, Dieu sauve, qu'il allait régner sur le trône de David son père, que son règne n'aurait pas de fin. Voilà en quels termes on avait annoncé la venue du sauveur. Et voici qu'ils découvrent à l'école de Siméon qu'en réalité, ce sauveur sera rejeté. Imaginez ce que ça a pu coûter à des gens aussi pieux et aussi désireux que la volonté de Dieu s'accomplisse, que la Vierge Marie et Saint Joseph, de constater qu'ils seraient en butte à la contradiction, qu'on ne voudrait pas de lui. Ce qu'ils avaient déjà eu l'occasion de découvrir de façon très douloureuse lorsqu'ils ont été rejetés de Bethléem. Il était dans la terre de ses pères, puisque descendant de David, il était plus que ça, le fils même de Dieu. Et voilà qu'on le met dans une mangeoire pour ne pas dire une bauge, parce que nous trouvons très mignonne la crèche, et nous avons raison, tout cela fleure bon l'atmosphère familiale, la crèche c'est mignon, la Vierge Marie et son sourire extraordinaire, Saint Joseph, le pieux qui ne dit rien mais qui pleure en son âme, si j'ose dire, et toute la création qui vient rendre hommage au Créateur, certes, mais au fond... Quand nous regardons vraiment ce qui se passe dans la crèche, nous constatons que le roi des rois est reçu sur un peu de paille à côté du purin. Voilà donc ce qui, sans aucun doute, a étonné la Vierge Marie et Saint Joseph. Ils les étonnent encore lorsqu'ils entendent dans la prophétie de Siméon qu'il ne va pas s'agir seulement de faire naître cet enfant dans une bauge, mais encore de le faire mourir. Ils ne savent pas encore qu'il s'agira de mourir sur la croix, mais lorsque la Vierge Marie s'entend dire qu'elle aura à souffrir l'équivalent d'un glaive sur son âme, elle se doute que la fin de son fils chéri ne sera pas très heureuse. Voyez donc que nous sommes dans cette atmosphère de Noël, et les parents de l'enfant Jésus encore, puisque la présentation devant au temple, et ce discours, ce dialogue plutôt avec Siméon, a lieu 40 jours seulement après la naissance de Jésus. Nous sommes donc en plein temps de Noël, Marie et Joseph sont en plein temps de Noël comme nous, et ils ressentent de manière contradictoire tout à la fois des sentiments d'émerveillement ou une disposition d'émerveillement et une disposition d'étonnement et d'étonnement douloureux. Nous sommes, il faut bien le dire, et je terminerai par là parce qu'il faut nous appliquer tout cela dans notre vie spirituelle, nous sommes si peu disposés à ressentir l'émerveillement. Alors ne parlons même pas de l'étonnement, l'émerveillement. Et l'étonnement, je crois, ce sont deux dispositions qui nous conviennent pendant ce temps de Noël. Sommes-nous émerveillés, vraiment ? Je veux dire, à part cet instant où nous avons vu la crèche, et avec un peu de curiosité, nous avons voulu savoir comment elle était disposée par rapport à l'année dernière, pour être très clair. Mais à part ce temps d'émerveillement, qui a été celui également de l'ouverture des cadeaux, ça ne dure qu'un temps, vraiment sommes-nous dans l'émerveillement devant ce qui se passe dans la crèche ? Puisque chaque année, cette liturgie est répétée inlassablement et imperturbablement, non, nous ne sommes pas émerveillés. Nous ne redécouvrons pas, avec une candeur d'enfant, cette scène absolument inouïe, incroyable, du Sauveur qui vient dans une crèche, qui vient dans une bauge, par amour pour nous. pas davantage, nous nous sommes vraiment étonnés. Mais non, depuis l'enfance, on nous apprend qu'il fallait que le Messie entre dans sa passion, qu'il souffre, qu'il meure, tout ça est très normal. Et, mes chers amis, je pense que nous devrions être davantage affectés par le sort qui est fait au Sauveur. Davantage affectés non seulement par le comportement de ceux qui le rejettent ouvertement, ça devrait nous faire vraiment souffrir, mais je crois que, pour une part, là, nous pâtissons. Mais nous devrions également être étonnés de notre propre réticence, pour ne pas dire de nos propres gifles infligées à l'enfant Jésus. Nous sommes encore dans le temps de Noël, nous vénérons l'enfant Jésus dans la crèche, et 2 minutes plus tard, nous sommes en train de nous disputer pour les queues de cerises, et nous infligeons une gifle au Sauveur qui est venu effacer notre péché. Alors il faudrait, je vois qu'on acquiesce, alors je suis heureux, puisse la cour angélique acquiescer de même. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, que nous sommes encore dans cette proximité avec Noël et la crèche, il faut supplier la Vierge Marie et Saint Joseph de pouvoir réellement entrer dans un émerveillement de plus en plus approfondi au fil des années, et non pas une lassitude et un étonnement. Il y en a qui ne s'étonnent de rien. Les malheureux, les pierres ne s'étonnent non plus de rien. Il faudrait vraiment que nous puissions donc obtenir de la Vierge Marie et de Saint Joseph cette délicatesse d'âme qui fait que l'on s'étonne, tout en ayant la certitude de la foi, que l'on puisse s'étonner de ces déploiements dans l'histoire du salut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.